École normale supérieure, savoir en multimédia.
C'est Paul Clavier qui prend la parole, qui est maître de conférence au département et qui est spécialiste de Kant, de philosophie analytique de la religion, et dont il va vous donner un exemple maintenant.
Bien, alors au cours de cette journée, on vous présente des échantillons de diverses manières de faire de la philosophie. Celle que je choisis de vous présenter, c'est une manière, disons, analytique de faire de la philosophie, dont je ne suis pas d'ailleurs spécialement titulaire ou spécialiste. Paul Aigret, qui parlera avec moi, est beaucoup mieux ferré. Mais je voudrais essayer de réconcilier ceux d'entre vous qui sont a priori récalcitrants avec ce type d'exercice. Alors, je vais parvenir. Un recto verso. Oui, c'est la même chose. C'est un exemplaire par personne. Je vous fais parvenir un recto verso qui peut-être effrayer, voire scandaliser tel ou tel d'entre vous, et par son sujet, et par la manière dont il est traité. Le sujet, c'est le concept de toute puissance. Vous allez vous dire, mais qu'avons-nous à faire du concept de toute puissance? C'est une vieille lune vraiment révolue, un concept évidemment théologique qui n'intéresse que les superstitions qu'il faut écraser. Et en plus, le traitement des propositions, des définitions, des constructions d'arguments, alors là, on va dire, c'est une OPA du positivisme logique sur les vénérables traditions de la philosophie née de Socrate, Platon, etc. Que diable vont-ils faire dans cette galère? Donc, on a envie de dire, c'est deux fois décalé et malvenu. Alors, c'est vrai que le concept de toute puissance, contrairement au concept d'inertie, on pourrait d'ailleurs s'amuser à les contraster, on peut dire que c'est vraiment un ovni, en tout cas une étoile disparue du ciel, morte depuis longtemps, semble-t-il. Quel intérêt à s'intéresser à ce concept? Alors, il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de personnes à la surface du globe confessent, à tort ou à raison, une foi en un être clément, miséricordieux, mais éventuellement puissant ou tout puissant. Et ils ont le droit de se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça les engage de croire ça? Donc, une définition ou au moins un concept de toute puissance n'est pas forcément impertinent. Et même un philosophe athée comme il se doit pourrait très bien se dire, ah mais je vais montrer que le concept de toute puissance contient une contradiction et donc j'aurai un bon argument à opposer à toute emprise ou entreprise religieuse. Bien. Mais également, du point de vue d'une discussion philosophique, les problèmes de Théodicée vont nous obliger à mobiliser et préciser un concept de toute puissance. En Théodicée, généralement, l'argument qui court depuis Épicure, en fait, c'est au fond un être tout puissant et bon pourra et voudra éradiquer le mal, or le mal prospère. Donc, il n'y a pas un être à la fois tout-puissant et bon. Soit il est mauvais et tout-puissant, alors on est mal barré, soit il est bon mais pas tout-puissant, donc il peut ne pas servir à grand-chose, soit ni l'un ni l'autre. Bon. Alors, comment instruire cette question? Eh bien, je vais vous proposer de passer en revue 5 concepts de toute-puissance. Il ne suffit pas de dire le mot toute-puissance, il n'est pas certain que ce terme, malgré sa grandeur, passé et l'impact rhétorique qu'il peut avoir, la toute puissance, il n'est pas certain que ce terme puisse être univoque. Et on va essayer, alors selon cette bonne vieille méthode analytique, de forger des définitions et de voir celles qui tiennent la route et celles qui ne la tiennent pas. Première définition, ça serait la suivante. Une personne est toute puissante si, par définition, elle est capable d'accomplir n'importe quelle action. Alors vraiment n'importe quoi. Elle peut tout faire. C'est la bonne à tout faire. Et tout, c'est-à-dire vraiment tout ce qui peut être exprimé par une suite de mots qui a un sens, même si c'est contradictoire. Alors c'est ce qu'on appelle généralement la conception cartésienne de la toute-puissance, puisque dans une lettre de mai 1630, Descartes, un peu agacé par des correspondants, qui disent « Vous savez, oui, enfin quand même, Dieu ne peut pas enfreindre les lois logiques, il peut quand même pas... Bon. » Et Descartes se met en colère, il dit « Attendez, Dieu n'est pas... comme Jupiter ou Saturne, assujetti au Styx ou destiné, il peut vraiment tout. Et alors, il a été aussi libre de faire qu'il ne fût pas vrai que toutes les lignes tirées du centre à la circonférence fussent égales, comme de ne pas créer le monde. Donc la toute-puissance de Dieu va jusqu'à pouvoir créer, ou même pas créer, faire que les rayons d'un cercle ne soient pas tous égaux, ou qu'un cercle ne soit pas l'ensemble des points équidistants d'un centre. Alors on peut dire, super, voilà enfin un peu de respect. Hein. Et les philosophes chagrins qui veulent une cohérence conceptuelle, là, et là, ils sont rembarrés par Descartes. Moi, je vais jouer au Petit Prince et me dis, bon, alors d'accord, super, il est vachement fort. Mais à quoi ressemble un cercle dont tous les rayons ne sont pas égaux? Une circonférence dont tous les points ne sont pas équidistants du centre? Alors ça, c'est une vraie question. Et je dirais, alors, s'il te plaît, Descartes, ou s'il te plaît, Dieu, dessine-moi un cercle dont tous les... Alors, je vous en dessine un. Je ne dessine pas très bien. Voilà. Ça, c'est un cercle. Il y a quatre points exactement qui sont équidistants du centre. Mais tous les points ne sont pas équidistants du centre. C'est un cercle tel que le dieu de Descartes peut les faire. C'est pratique. Alors, on dirait, il y a des théories, topologie, etc. On dit, ah, mais si, c'est... Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Alors, ça fait scandale. Hobbes, par exemple, a dit, mais qui peut croire que l'on sert Dieu par de telles absurdités? C'est au chapitre 26 du Léviathan. Et il ajoute, honorer la puissance divine, est-ce vraiment honorer la puissance divine que de dire que ce qui est n'est pas, ou que ce qui a été n'a pas été? Alors là, la réaction de Hobbes est sans doute violente, mais elle me semble assez pertinente, parce qu'au fond, quand j'attribue à un agent, à un être, quel qu'il soit, le pouvoir de faire que toutes les lignes tirées du centre à la circonférence d'un cercle ne soient pas égales, je pense que je ne sais même pas ce que je lui attribue. Si ça se trouve, je lui attribue un crime contre l'humanité, ou au contraire, une action extrêmement bienfaisante, mais je ne sais plus ce que je dis. Donc la question n'est pas de dire, ah ben non, moi, géomètre euclidien, je vais limiter la puissance de Dieu. En un sens, je veux dire que cette extension de puissance ne sert à rien, elle est même assez suspecte. Alors, on peut ne pas être d'accord, et il y a encore aujourd'hui des philosophes qui disent, non, Descartes avait raison, nous n'avons pas à faire passer au crible du principe de contradiction le pouvoir d'un agent surnaturel, etc. Bon. Pourtant, alors, moi, je me rallierais plutôt à la position de Hobbes, qui sera plus tard celle de Gitsch, à savoir, je l'ai noté là, que la consistance logique dans la description d'une action A est une condition nécessaire, pas suffisante, hein, mais nécessaire, pour que la proposition X peut faire A soit vraie. Et si la description de A est inconsistante, alors la proposition représente une description d'acte inconsistante, et la proposition « Dieu peut faire ceci ou cela » est fausse et impossible, parce qu'elle implique « il pourrait se faire que ceci ou cela arrive ou soit le cas », mais si ceci ou cela désigne quelque chose d'impossible, je ne vois pas comment on sort de la contradiction. Et au fond, avec Hobbes et Gitsch, je dirais, bon, au fond, si Dieu est limité par le principe de contradiction, est-ce que c'est grave? Bon, est-ce que c'est vraiment un signe de faiblesse? Pas sûr. D'où passage à une deuxième définition, qui dirait ceci, une personne est toute puissante, et seulement si, par définition, hein, elle est capable d'accomplir n'importe quelle action logiquement possible. Et là encore, on pourrait dire, oui, mais c'est peut-être un peu restrictif, hein, parce que ça semble dire que les actions logiquement possibles, elles doivent pouvoir les accomplir toutes elles-mêmes. Or, je l'ai noté, certaines actions ne peuvent pas être accomplies, ne peuvent être accomplies que par certains agents ou certaines personnes. Par exemple, nager n'est possible qu'à une personne incarnée. On sort des Jeux paralympiques, il y a des nageurs... Mais enfin, ils ont quand même un corps. Sinon, on ne sait pas quand on donne le départ, on ne sait pas quand ils plongent, etc. Exemple, alors, typiquement anglo-saxon, sur les bachelors, un célibataire ne peut pas divorcer. Hein. Et un être tout puissant qui dit, mais moi, je vais faire en sorte que les célibataires divorcent. On lui dira, objection, votre honneur, il faut d'abord qu'ils se marient, ensuite ils divorcent. Et alors, plus radicalement, le fait qu'un célibataire ne puisse pas divorcer n'implique pas que ce célibataire n'est pas tout puissant. Alors, je ne prône pas sur la question de savoir si Dieu est célibataire ou non, c'est pas ça. Mais au fond, l'incapacité d'accomplir n'importe quelle action logiquement possible, de l'accomplir en sa personne, soi-même, n'est pas forcément un bon critère, hein, de limitation de la toute-puissance. Alors, si on accepte cette objection, on passe à une troisième définition. Une personne est toute-puissante, par définition, elle est capable de réaliser, de produire n'importe quel état de choses logiquement possible. Alors on est passé de l'accomplissement d'une action qui implique l'agent, c'est lui l'agent, hein, à la réalisation, à la production d'un état de choses. Et donc, les modalités propres à l'agent, cet être tout-puissant peut faire qu'il y ait des nageurs sans être capable de nager parce que, de toute façon, lui n'a pas de corps. On ne dira pas, ah bah oui, bah écoutez, il est tout-puissant, mais il ne peut pas nager. Oui, mais il peut faire beaucoup mieux, il peut faire qu'il y a des gens qui nagent. Il peut faire qu'il y ait de l'eau, il peut faire qu'il y ait des lois hydrodynamiques, etc. Bon. Et des principes d'Archimède. Alors on a envie de dire, bah, c'est pas mal cette définition, mais il y a encore des objections qui peuvent pointer. Est-ce que, par exemple, réaliser n'importe quel état de choses logiquement possible inclut de pouvoir réaliser un état de choses passé ? Un agent tout-puissant, un être tout-puissant, peut-il faire qu'il a plu ou qu'il n'a pas plu avant-hier, par exemple ? Ou faire que le Titanic n'ait pas sombré. S'il est vraiment tout puissant, il devrait pouvoir faire en sorte que le Titanic n'ait pas pu. Est-ce que ça, c'est une objection ? Est-ce que c'est une limitation recevable pour la toute-puissance ? Le Titanic n'a jamais sombré. C'est un état de choses qui est logiquement possible, enfin qui traduit plus exactement l'expression. Le Titanic aurait pu ne pas sombrer. Alors, sauf si vous pensez que c'est une proposition analytique, le Titanic sombre en juillet 1912. La date, c'est quoi déjà ? Enfin, en 1912. Bon. À moins d'avoir une thèse, à mon avis, assez forte sur il était impossible que le Titanic ne sombrât pas en 1912. Hein. Alors, le fait que le Titanic ne sombre pas, c'est logiquement possible. Mais comme c'est passé, il y a un principe de la nécessité du passé, on va dire, c'était pas logiquement possible, mais c'est historiquement fini. On ne peut plus revenir en arrière. Alors, cette question peut paraître tordue. Elle a beaucoup agité les théologiens médiévaux qui se demandaient si Dieu pouvait réparer des accidents, des blessures terribles dans le passé. Bon. Et le problème, c'est que là, on arrive à quelque chose d'assez étonnant. Et on pourrait radicaliser le problème. Au fond, si on admet que un être tout-puissant doit pouvoir réaliser n'importe quel état de choses logiquement possible, y compris modifier le passé, puisque celui-ci n'était pas nécessaire, on pourrait se demander, par exemple, si une personne toute-puissante peut faire qu'elle n'a jamais existé. Hein ? Il est logiquement possible qu'il n'ait jamais existé de personne toute-puissante. Et donc, on va dire, bah, vous qui prétendez être tout-puissant, faites en sorte que vous n'ayez jamais existé. Alors, ça pose un problème. Hein, parce que on ne sait plus à qui on attribue la toute-puissance, puisque justement, le test de la toute-puissance, c'est que la personne toute-puissante n'existe pas. Ce qui pose un problème. Alors, vous voyez, on rajoute une couche. On en arrive à une quatrième définition. Une personne est toute-puissante. Alors, on va temporaliser la définition. Une personne est toute-puissante à l'instant T. Par définition, ça signifie qu'elle est capable de réaliser ou de produire n'importe quel état de choses logiquement possible, postérieur à T. Alors, vous pouvez raffiner simultané ou postérieur à T. Il y a des grandes discussions à Oxford sur s'il faut garder la simultanéité ou pas. Bon. Et là, on n'est pas pour autant débarrassé de toutes les questions. Faut-il exclure les états de choses logiquement nécessaires ? Tout à l'heure, au moment de la définition A, on a remarqué que ça n'était pas un défaut de puissance que de ne pas être en mesure de réaliser n'importe quel état de choses, de réaliser un état de choses contradictoire, logiquement contradictoire. Mais là, on pose la question symétrique. Est-ce qu'un être puissant doit être capable de réaliser un état de choses logiquement possible ? Et la question, c'est justement une question qui a agité Descartes. Quelle est la provenance des vérités éternelles ? Vous savez qu'entre Descartes et Leibniz, il y a une grosse pomme de discorde. Pour Leibniz, les vérités éternelles sont dans l'entendement divin, indépendamment de sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui décide que P est équivalent à P. Descartes dit si, c'est Dieu. Dieu aurait pu faire que P ne fût pas équivalent à P, ou que la définition du cercle s'appliqua à une figure dont tous les points ne sont pas équidistants d'un centre, moyennant le rayon. Donc, grosse discussion qui n'est pas terminée encore, puisque des logiciens contemporains comme Quine se disent, au fond, ce que nous appelons les lois logiques ne sont peut-être que des lois naturelles qui sont très difficilement révisables, mais après tout, quand savons-nous ? Donc c'est une question véritablement, à mon avis, pertinente et beaucoup plus intéressante que le simple clash entre Leibniz et Descartes. Alors, on a envie de réduire les états de choses qui sont dans la compétence productrice d'un être tout-puissant à l'instant T à des états de choses logiquement contingents. Mais même si on ajoute logiquement contingent, on risque de tomber sur le beau problème. La définition D, en effet, n'explique pas qu'une personne toute puissante en 2012 soit capable de produire un état de choses dénué de cause en 2013. Qu'un état de choses soit dénué de cause, ça, on peut le discuter physiquement. Donc, logiquement, c'est pas impossible. Il y a des arguments de Hume, par exemple, pour dire... nous n'avons aucun titre à exiger que tout état de choses ait une cause. Ça peut être comme ça, au final. Donc, on peut admettre, au fond, que... Seulement, le problème, c'est de produire quelque chose qui est soi-même dénué de cause. Là, il y a une contradiction. Hein, et qui n'est pas dans la description de l'acte, hein, et qui va devoir être rétablie, réintroduite comme clause de cohérence dans la définition. D'où la définition E. Une personne est toute puissante à l'instant T, quand par définition, elle est capable de réaliser, de produire n'importe quel état de choses contingent, logiquement possible, postérieur à T, et dont la description n'implique pas qu'elle ne l'a pas produite à T ou après. Voilà. Alors vous allez me dire, mais oh, qu'est-ce que c'est que l'exercice ? Bon. Je m'excuse, mais c'est l'exercice de socratique par excellence. Vous ouvrez un dialogue de Platon... Hein, qu'est-ce que le beau ? Ah ben le beau c'est ça, ça. Ah ben non, alors le beau, est-ce que c'est l'utile ? Alors on essaye, ah non ça marche pas. Alors le beau c'est l'harmonie. Alors, bon. Je pense qu'il est inutile d'attiser la haine entre un soi-disant camp analytique et un camp de la philosophie continentale ou quasi-insulaire comme en Grèce. Parce qu'au fond, ce que font un bon nombre de philosophes analytiques, c'est tout simplement redire, ben, écoutez, de quoi parle-t-on ? Et comment on le définit ? Et est-ce que la définition qui est proposée et qui est discutée permet, oui ou non, d'attribuer tel concept à telle ou telle réalité ? Alors, il y a un paradoxe, pas forcément amusant, mais qui a été utilisé justement pour essayer de dire, mais écoutez... Voilà, c'est un argument athéiste disant, écoutez, il y a un argument simple permettant de dire qu'un être tout-puissant ne peut pas exister, car le concept de toute-puissance, indépendamment de ses connexions avec les états du monde, bon ou mauvais, etc., et l'intervention ou non-intervention d'un dieu supposé bon dans ces états du monde, indépendamment de ces questions extérieures, le concept de toute-puissance est en lui-même inconsistant. Alors, d'une certaine manière, un philosophe pas très analytique, mais Hans Jonas, hein, avait bien avant d'ailleurs discuté des questions de Théodicée, proposer que le concept de toute-puissance avait de sens que par référence à la puissance et au travail d'une force physique, et que par conséquent, il devait s'exercer sur quelque chose d'extérieur, et que donc le concept de toute-puissance était contradictoire. Alors, j'ai pas une très grande confiance dans cette réfutation-là, mais enfin, l'idée, c'est que tout le monde a le droit de discuter la cohérence logique hein, d'un concept. C'est pas réservé aux analytiques. Alors, le paradoxe s'énonce ainsi. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, une pierre trop lourde pour ses forces ? Et on propose un dilemme. Si Dieu ne peut pas créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, alors il y a une action qu'il ne peut pas accomplir, c'est créer cette pierre. Mais inversement, si vous dites si, Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, alors il y a une action qu'il ne peut pas accomplir, c'est soulever la pierre en question. Donc dans les deux cas, il y a une action que Dieu ne peut pas accomplir, donc Dieu n'est pas tout puissant. Et comme on peut généraliser cette déclaration à toute personne, est-ce qu'une personne, existe-t-il une personne qui puisse créer une pierre trop lourde, enfin une personne toute puissante, peut-elle créer une pierre trop lourde à soulever pour elle hein, et que dans les deux cas de figure, soit qu'on suppose qu'elle le peut, soit qu'on suppose qu'elle ne le peut pas, la conséquence est qu'il y a toujours une action qu'elle est incapable d'accomplir, eh bien on dit bah donc, il n'y a pas d'être tout puissant. C'est impossible. Une objection dirimante. Alors, à ce paradoxe, il y a une première solution qui a été avancée. C'est de dire, en fait, dans l'hypothèse où il existe un agent tout-puissant, on l'appelle Dieu par commodité, mais ça peut être Zeus, Brahma ou qui vous voulez. Hein, dans l'hypothèse où Dieu est tout-puissant, l'expression « une pierre tellement lourde que Dieu ne pourrait pas la soulever » ne dénote aucun objet. Sa référence est même nécessairement vide. Et on pourra dire... Ce n'est donc pas une objection à sa toute-puissance que de ne pas pouvoir créer quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas exister. Mais pour en arriver là, il faut que vous ayez déjà abandonné la définition A. Parce que sinon, quelqu'un pourrait utiliser la définition A pour dire non, s'il est vraiment tout puissant, il va pouvoir même réaliser des choses contradictoires. Et alors il dit, mais attendez, il n'existe pas de pierre qu'un agent tout puissant ne peut pas soulever, puisqu'il est tout puissant, il peut soulever toutes les pierres. Donc, quand vous me dites que ne pas pouvoir créer une pierre qui ne peut pas soulever, c'est une limitation de sa toute-puissance, je vous réponds non, parce que cette pierre n'existe pas. Et on vous dit, bah, tant pis, il avait qu'à être capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Bon. Donc, vous voyez, l'importance de ces définitions, elle joue un rôle dès la première solution de ce paradoxe. Malheureusement, pour le tenant de cette solution, et qui s'en tiendrait à la définition A, c'est que cette solution présuppose l'existence d'un être tout-puissant. On dit qu'on a supposé où et qu'il y a un agent tout-puissant, et que donc la pierre que personne ne peut soulever n'existe pas. Donc on a présupposé la consistance du concept de toute-puissance, ce qui n'est pas une bonne façon de répondre à un argument sur la non-consistance de ce concept de toute-puissance. Alors, on va tourner la page, mais rassurez-vous, on n'ira pas jusqu'au bout. Hein. Ce paradoxe de la pierre va recevoir une deuxième solution, de la part de celui qui l'a rendu le plus célèbre et qui est C. Wade Savage. Alors ne le confondez pas avec Lenny Jimmy Savage, le grand économiste et mathématicien prix Nobel. Hein. Et là, il formule le paradoxe, vous le verrez de façon plus précise. Alors comme Sophie, je vous engage à lire chez vous ce soir, en souvenir de cette belle journée qui ne fait que commencer, ce texte. Et vous dire, ah bah oui, effectivement, hein. On commence par une alternative stricte, ou bien P peut créer une pierre qu'elle ne peut pas soulever, ou bien P ne peut pas créer une pierre qu'elle ne peut pas soulever. P, c'est une personne. Hein. L'alternative stricte, donc, on parcourt chacun des deux membres. Si P peut créer une pierre que P ne peut pas soulever, alors, etc. Donc, dans les deux cas, point 4, il y a au moins une tâche que P ne peut pas accomplir. Or, si un être est tout-puissant, alors P peut accomplir n'importe quelle tâche. Par conséquent, P n'est pas omnipotente. Alors, ce que va faire Savage, hein, après avoir reconstitué de façon assez carré, hein, le raisonnement. On va dire, ah ouais, ça c'est vraiment analytique. Bah, écoutez, vous ouvrez le Parménide de Platon, vous avez 9 hypothèses sur l'un. Alors je ne dis pas que c'est très, forcément très clair, c'est un peu mystique, hein, mais il y a quand même un souci d'ordonner, hein, et de point par point, de vérifier la consistance des positions qu'on avance. Donc c'est pas, voilà, la philosophie analytique n'est pas, encore une fois, cette OPA. Un capitalisme américain venu vampiriser les forces de la vieille Europe. C'est au contraire, me semble, une façon modeste de dire, bah oui, il y a d'excellentes choses, l'interrogation socratique, la dispute médiévale, le mettre, tester les concepts à travers des schémas argumentatifs, c'est peut-être ce que nous avons de mieux à faire. Je ne dis pas que c'est la seule chose que nous ayons à faire. Quand je dis de mieux, je dirais plus modestement, c'est pas plus mal qu'autre chose. Bon. Alors, je vous laisserai découvrir, parce que le temps passe, hein, les traits subtils, mais il y a des subtilités chez Platon aussi, hein, solutions et objections qu'on peut donner à ce paradoxe, et qui oblige d'ailleurs, dans un premier temps, dans l'objection, à réintroduire la temporalisation, hein, comme on l'a vu dans la définition D. Mais ça ne suffit pas, hein, parce que, rapidement, au fond, quoi qu'on dise, il est à la portée de beaucoup de gens d'organiser un produit ou un objet tel qu'ils pourront pas le soulever. Je peux, par exemple, faire un tas de toutes les chaises qui sont dans cette pièce, et puis je ne pourrais pas le soulever. Et on va dire, alors, si un être tout-puissant n'est même pas capable de réaliser cette chose, il y a un problème. Et on arrive à une troisième solution, hein, qui, elle, utilise justement la définition E. Alors, je ne pense pas qu'il soit commode à l'oral, comme ça, hein, de vous montrer qu'en utilisant la définition E, on permet de montrer que dans la proposition 2, il y a un sophisme, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'admettre que E est vrai pour toute personne supposée toute puissante. Et de même façon, la proposition 3 n'est pas vrai de tout P. L'idée intéressante, en deux mots, c'est que on ne va plus dire qu'une pierre qu'un être tout-puissant ne peut pas soulever ne peut pas exister. Parce qu'on va dire, attendez, un être tout-puissant pourrait créer l'état de choses, hein, d'un monde dans lequel il y a une pierre que lui ne peut pas soulever. Et pourquoi, hein. Mais l'idée intéressante, hein, avec cette contrainte de temps et l'idée d'une d'une production d'un état de choses logiquement contingent, c'est que justement, un être tout-puissant n'est absolument pas forcé de créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Et donc, il faut distinguer entre l'attribution de la puissance à un agent, puissance de faire ceci, cela, et l'exercice effectif de cette puissance. Et c'est la manière dont Swinburne sauve la définition E, mais la philosophie analytique est une philosophie collective, des générations d'étudiants et d'élèves complètent les objections, les réponses, et il vous appartient de trouver une définition F qui, tout en survivant à tous les tests, laissera quand même le paradoxe de la pierre prospérer et donc mettra en échec la cohérence du concept de toute puissance. Je vous remercie.